Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Je m'appelle Yubi Surianto et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, samedi. Il est 3h du matin du temps à Jakarta maintenant. Chers auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par le journal, suivi la revue de presse. Aujourd'hui dans l'histoire, la mise au point. Et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission, la rubrique distraction, c'est-à-dire la couleur de la musique indonésienne. Bon, alors, on va écouter maintenant les journaux pour aujourd'hui.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Chers auditeurs de TIS, voici le journal aujourd'hui. Intitulé « Le président Joko Widodo demande de profiter le certificat foncier pour le bien-être ». Et puis, le président Joko Widodo espère aussi que le libre de la rougerole d'ici 2020, l'Indonésie. Voici le bulletin complet. Le président indonésien Joko Widodo a remis symboliquement le certificat foncier aux 12 résidents de 5 900 personnes qui ont reçu des certificats fonciers par le programme dans l'inscription foncière systématique complète ou PTSL au chambre de Niti Mandala Denpasar vendredi. Après la remise de ces certificats fonciers, le président dans son discours a dit que la réception de certificats fonciers pourrait plus renforcer la propriété foncière appartenant à des citoyens. Il peut également empêcher le conflit foncier qui sont produits à cause du manque de certificats fonciers. Le président Joko Widodo a également demandé aux personnes qui reçoivent des certificats de le profiter bien. Selon lui, ce certificat peut être utilisé pour les garanties à la banque afin d'obtenir des capitaux pour les affaires. Le président a conseillé quand il gagne des prêts bancaires ne devraient pas être utilisés à des fins de consommation. Il a demandé de vraiment compter la capacité de rembourser le prêt, de crainte que leur certificat et le terre bancaire cessent pour non-paiement des dettes. Cet événement a été également assisté par le gouverneur de Bali, Mali Mangkupastika, le ministre de la Guerre et Spatiale, Sofian Jalil, le résident, le maire et le représentant du Forum de coordination des dirigeants régionaux de la province de Bali. Le président Joko Widodo veut plus de 3 ans à partir de maintenant ou en 2020. L'Indonésie est libre de la rougeole et la rubéole. Le désir a été exprimé par le président Joko Widodo lors du lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole tenue à Madrasa Sanawiyah, dit Sleman situé en Anglique, la résidence de Sleman, Yogyakarta récemment. À cette occasion, le président, qui était accompagné de plusieurs ministres et les autres fonctionnaires, comme le ministre du secrétaire d'État, Pratikno, le ministre de la Santé Nila Mulouk, le gouverneur de Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono disent le résident de Sleman Sri Purnomo a déclaré que la vaccination est un moyen de garder les enfants pour être en bonne santé. Le président a souligné que la rougeole et la rubéole ont été prouvées et connues dans le monde entier comme la maladie dangereuse. Cela affecte les enfants, il a dit aujourd'hui en Indonésie. Le nombre des enfants qui sont vaccinés contre la rubéole est moins d'un pour cent. Cela est encore très faible. Voilà pourquoi le gouvernement est fermement engagé à réaliser l'élimination de la rubéole et contrôler les maladies, la rubéole et les malformations congénitales dues à la rubéole en Indonésie. L'ambassade de la République d'Indonésie au Maroc, à Rabat, organisera l'exposition indonésienne du commerce et du tourisme en ville de Marrakech, au Maroc, en novembre 2017. Cela a été dit par le ministre du Tourisme de la République d'Indonésie, Arif Yahya, dans son discours dans l'événement de la réception de la Journée nationale du Maroc à Jakarta, lundi le 31 juillet. L'ambassade d'Indonésie au Maroc organisera une exposition commerciale et touristique à Marrakech en novembre 2017. À cette exposition, on exposera les produits du commerce de l'Indonésie et la destination touristique et offre une coopération entre les agents de voyage. Le ministre Arif est optimiste que cette exposition se déroulera bien et créera les potentiels qui peuvent fournir les avantages aux deux pays, à savoir l'Indonésie et le Maroc. La menace du terrorisme est devenue l'objectif principal qui sera délivré par l'Indonésie par le ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi lors d'une réunion ministérielle d'ASEAN de 4 à 8 août à Manille, aux Philippines. Le porte-parole du ministre des Affaires étrangères, Armand Athanasia, a déclaré « Le terrorisme s'est produit même dans certaines régions de l'ASEAN, telles que les Philippines et l'Indonésie. Si bien que cela a besoin d'un engagement commun, il a dit bien que dans l'organisation de l'ASEAN a déjà un mécanisme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Cependant, il faut encore nécessiter l'engagement de tous les États membres à prendre des mesures concrètes pour le combattre. » Pendant ce temps, cette réunion Indonésie encouragera également pour l'achèvement du code de conduite, ou COC, de la mer de Sine méridionale vers l'accord dans la ligne des tanks. Pendant ce temps, la grande célébration des 50 ans de l'ASEAN à Manille se tiendra le 8 août 2007. Le directeur de la coopération politique et de sécurité de l'ASEAN, Chandra Widyayuda, a affirmé renforcer les communautés de l'ASEAN dans le but de remonter la sécurité et la prospérité dans la région était l'objectif principal de la célébration des 50 ans de l'ASEAN cette année. Chandra Widyayuda a déclaré concernant le plan du ministre des Affaires étrangères de la Corée du Nord, Ri Yong-ho, qui participera au forum régional de l'ASEAN, est un bon élan. Dernier, 50 jeunes volontaires de 10 pays de l'ASEAN se réunissaient pendant 4 semaines à Bandung pour participer au programme des jeunes bénévoles de l'ASEAN, ou IAVP, soutenu par l'Agence américaine pour le développement international, ou USAID. Au cours du temps, les participants apprendront sur les catastrophes naturelles, comment réduire les risques et renforcer la résilience. Ils impliqueront également directement avec le public dans une variété d'activités de réduction des risques de catastrophes, y compris les exercices de préparation face au séisme. Neil Bergson, responsable des affaires de l'ASEAN du SAID, a affirmé que le programme de IAVP s'est réuni des jeunes leaders de la région à construire une communauté qui partagera mutuellement et construire conjointement les connaissances sur la réduction des risques des catastrophes. Si la catastrophe a frappé la communauté de l'ASEAN, y compris les jeunes, le résoudre conjointement. C'est solidarité, c'était notre journal aujourd'hui.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la revue de presse. L'éditorial du journal Média Indonésia, le 3 août, a pour titre « Lutter contre la drogue derrière les barreaux ». À bien des égards, la prison OLP devrait être en détenu de dissuasion, mais souvent il devient un endroit sûr pour les détenus de continuer à commettre des crimes. Dans ce dernier cas, l'agence de ressort criminel de la police d'Indonésie, Bariskrim Polri, a déjoué la contrebande d'un frigo de millions de pilules d'ecstasy néerlandais d'une valeur de 600 milliards rupiah. La police a arrêté non seulement les trois acteurs et a abattu une personne, mais a révélé aussi le fait que la contrebande de pilules d'ecstasy est orchestrée par Asen, condamné à 15 ans dans les affaires de drogue Kupis maintenant dans la prison de récupération. Selon le journal Média Indonésia, toutes les parties sont concernées parce qu'il y a des détenus qui peuvent contrôler le trafic de drogue de prison. Ce journal demande aux autorités pourquoi Aseng a encore fomenté des affaires de drogue de prison et d'agir de manière décisive les agents impliqués. Par ailleurs, l'Agence nationale des stupéfiants a dit 70 du trafic de drogue dans le pays est contrôlé à partir de la prison. Par conséquent, la véritable percée du ministère de la Loi et des droits de l'homme est très attendue à prendre des mesures contre les fonctionnaires qui ont l'esprit de traître. Mais Indonesia a écrit « Une surveillance accrue doit être faite pour que la prison n'a pas continué d'être un refuge pour les trafiquants de drogue qui apportent l'enfer pour le peuple de l'Indonésie. » Le dernier, l'éditorial du journal Sindo, le premier hôte, a pour titre « La controverse du fond du Hajj ». Bien qu'il soit encore en discours sur l'investissement du coût de l'organisation de Hajj ou BPIH dans les infrastructures, la réponse de la communauté varie. Même il y a un vif polémique. Une telle réaction montre que la gestion des fonds de Hajj doit être faite très soigneusement. En effet, les fonds de Hajj collectés qui atteignent des dizaines de trillions de roupies sont très tentants d'être utilisés. Le gouvernement, qui a du fonds limité pour la réalisation de projets d'infrastructure, a échangé en regard du fonds de Hajj d'être utilisé. Selon le journal Sindo, dans le cas d'une vive controverse dans la communauté au sujet de l'utilisation des fonds de Hajj, il était naturel car ce fonds de Hajj n'est pas de fonds ordinaire mais le fonds public qui est son déposés pour le pèlerinage à la Terre Sainte. Comme l'a affirmé le directeur général du fonds de Hajj et système intégré de Hajj du ministère des Affaires religieuses, Ramadan Harisman. L'utilisation de BPIH pour l'investissement dans divers secteurs n'a pas besoin de demander la permission aux pèlerins qui ont entré le fonds, parce que les pèlerins avaient signé un formulaire Wakala au moment du dépôt de BPIH. Cependant, le ministre de la Religion, Luqman Hakim Saifuddin, a précisé que BPIH peut être géré pour des choses qui sont productives, y compris pour le financement du développement des infrastructures. Plutôt, le président Joko Widodo veut la gestion du fonds de Hajj qui atteint 93 trillions de roupies peut être maximisée au secteur productif pour ne pas perturber l'heure de départ prévue et l'espoir des fonds de Hajj. Serviteur, c'est à vous de presse pour ce soir.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs, voici notre programme quotidien. Aujourd'hui, dans l'histoire de la voix d'Indonésie, on va commencer le 5 août 2003, l'attentat de l'hôtel JW Marriott à Jakarta qui a tué 14 personnes et blessé 156 autres. Le 5 août 2003, une bombe en grande puissance a explosé devant le hall de l'hôtel JW Marriott Mega Kuningan Jakarta du Sud environ à 2h45 le temps indonésien, quand la plupart des visiteurs de l'hôtel ont été en appréciant un repas de midi. L'explosion a tué 14 personnes et blessé 156 autres. La source de l'explosion vient d'une voiture Toyota Kijang conduite par Asmar Latin Sani, chef de la police nationale indonésienne à l'époque, la police générale Dai Bakhtiar, a déclaré l'explosion d'une bombe en face de l'hôtel JW Marriott, similaire à des explosions à Bali en 2002. À la suite de l'incident, l'hôtel JW Marriott est fermé pendant les 5 semaines pour la restauration. On change le 5 août 1962, le premier président indonésien Sukarno a inauguré l'hôtel Indonésie. Le 5 août 1962, le premier président de la République Indonésie Sukarno a inauguré l'hôtel Indonésie, l'hôtel de 5 étoiles qui a été établi première fois en Indonésie. En tant également en Asie du Sud-Est, Sukarno, en tant qu'il a initié de l'établissement de cet hôtel, il a également établi le grand magasin Sarina. Ces deux bâtiments sont confrontés les critiques des gens qui blâmaient le bâtiment de l'hôtel comme un projet par. Mais Bung Karno a continué à avancer. La construction à l'hôtel d'Indonésie a été conclue par l'architecte américain Abel Sorensen et sa femme Wendy. On termine le 5 août 2011, Yingluck Shinawatra remplace Abhijit Vijayjeeva comme premier ministre de Thaïlande. Yingluck Shinawatra est un homme d'affaires de la femme, homme politique et membre du parti Peu Thaï qui a servi comme le 28e premier ministre de la Thaïlande après avoir remporté les élections en 2011. Premier ministre Yingluck est la première femme de la Thaïlande à gouverner et aussi l'un des plus jeunes premiers ministres de la Thaïlande pour 50 ans derniers. Dans la campagne, Yingluck a appelé à son désir de mettre en œuvre la réconciliation nationale, l'éradication de la pauvreté et la réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés. Même si ces programmes sont bafoués par le Parti démocrate, le Parti Peu Thaï a remporté une victoire éclatante avec 47% de la vote, a remporté 265 des 500 sièges au Parlement de la Thaïlande. Pendant la crise politique, en mai 2014, la Cour constitutionnelle de la Thaïlande a libéré Yingluck de son poste de premier ministre sur des accusations d'abus de pouvoir. Pour déterminer la peine, le juge de procès a déclaré que Yingluck a abusé de son pouvoir en déplaçant la tête du Conseil de sécurité nationale, Tanwi Plinsri, à un autre poste. Ceci est fait dans le but de Priupan Damapong, la famille de Yingluck Shinawatra, peuvent occuper cette position. Niwat Tumrong Bonsong Paisan, nommé temporairement en tant que premier ministre par intérim. Ces auditeurs et auditrices étaient aujourd'hui dans l'histoire de la Voix d'Indonésie ce soir de l'édition de 5 août. À demain.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Serviteurs, bonsoir. Voici donc la mise au point et pour le titre, l'Indonésie demande le soutien pour la Palestine dans la réunion de l'OCI. Sur la proposition de l'Indonésie et certains pays, en particulier membres du comité exécutif de l'Organisation de la Conférence Islamique, OCI, la réunion ouverte extraordinaire du comité exécutif de l'OCI a eu lieu à Istanbul, en Turquie, mardi le 1er août 2017. La réunion a eu lieu en réponse à la violence et aux restrictions d'Israël sur les pèlerins qui prient dans le complexe de la mosquée Al-Aqsa. Lors de la réunion, l'Indonésie était représentée par la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi. Dans ce forum, Retno a appelé le soutien pour la Palestine lié à la crise dans le complexe de la mosquée Al-Aqsa. L'Indonésie condamne fermement les restrictions à prier à la mosquée Al-Aqsa et la violence qui a provoqué des victimes. La violence dans le quartier de la mosquée Al-Aqsa a eu lieu suite à l'installation d'un détecteur de métaux pour les autorités israéliennes suite à l'attaque contre le personnel de sécurité. Les affrontements ont également entraîné des victimes. Les musulmans devraient unir et prendre des mesures concrètes pour aider les Palestiniens, a déclaré Retno. Madame Retno a souligné la nécessité pour les pays membres de l'OCI, une variété de forums, y compris le Conseil de sécurité des Nations Unies, de faire pression sur Israël pour modifier la politique qui est appliquée dans la violence en Palestine. En outre, pour l'Israël, de se conformer à toutes les résolutions de l'ONU relatives à la Palestine. La ministre Retno a également proposé que l'OCI pourrait bientôt demander au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève à tenir une réunion spéciale pour discuter de la situation des violations des droits de l'homme dans Al-Aqsa. L'Israël devrait être tenu responsable. L'incident qui a eu lieu à Al-Aqsa n'est pas la première, mais est une forme de violence, occupation illégale et a également violé les droits de l'homme qui doivent être pris en compte par l'Israël. Selon Mme Retno, l'incident dans le complexe Al-Aqsa est le reflet des politiques de violence qui violent les droits de l'homme et l'impact de l'occupation illégale israélienne qui continue à la Palestine. Retno a ajouté, Israël doit rétablir la stabilité et assurer le statu quo contre le complexe de la mosquée Al-Aqsa. À cet égard, la ministre indonésienne des Affaires étrangères a proposé que l'OCI prenne les étapes pour assurer une protection internationale vis-à-vis le complexe Al-Aqsa, ancien complexe à trois religions, à savoir l'islam, le christianisme et le judaïsme, ainsi qu'un site du patrimoine mondial. Madame Koto Marsoudi profite de la réunion à Istanbul pour affirmer l'importance de faire reculer les négociations de paix sur la base du principe de la solution à deux États. La réunion a donné lieu dans le communiqué final qui comprend une variété d'entrées en provenance d'Indonésie. Serge Dutor, c'était la mise au point pour ce soir.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel en produisant La Plage Purnama à Bali. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix de l'Indonésie. La région Gianyar est célèbre d'artisanat d'art que l'on appelle la terre d'art. Outre célèbre de l'artisanat d'art, Gianyar est aussi célèbre pour sa beauté naturelle, entre autres la plage Purnama. La plage Purnama est située à Banjar Lupang Telabah, village Sukawati, en région Gianyar. Du centre-ville Gianyar à la plage Purnama est d'environ 11 km. Pont de l'aéroport Ngurah Rai prend environ 50 minutes. Du centre-ville Denpasar prend environ 35 minutes. Le site touristique de la plage Purnama a du sable noir qui scintille comme du cristal, en particulier lorsqu'il est exposé à la lumière du soleil. Presque toutes les plages ont des courants océaniques et les grandes vagues. Il est donc conseillé de ne pas se baigner dans la région côtière. Vous pouvez profiter de la beauté de cette plage exotique sans devoir nager dans la région côtière. À la pleine lune, la plage est très fréquentée et visitée par les touristes, surtout dans l'après-midi parce que ce temps, la beauté de la lune est parfaite. C'est difficile à décrire quand la lune est venue lentement au-dessus du niveau de la mer. Le matin, vous serez hypnotisé par la beauté du lever du soleil qui a émergé de la surface de la mer. La plage Purnama est aussi souvent utilisée pour l'activité d'une cérémonie religieuse par les habitants. À cette plage, vous pourrez vous détendre tout en profitant d'une plage tranquille, les bains de soleil et de jouer le surf et la pêche. En plus de prendre le soleil, les visiteurs peuvent également enterrer le corps tout en profitant de la chaleur du sable qui est dit pour guérir un certain nombre de maladies. Parce que la plage Purnama est souvent visitée par les touristes locaux et étrangers, Les habitants profitent de cette situation en vendant des collations et des boissons. Les autorités locales font la plage Purnama comme site touristique en fournissant l'accès routier à la plage qui est agréable et peut-être passée par des véhicules de deux roues et quatre roues, un grand parking et sécurisé, des stands vendant de la nourriture et des boissons, ainsi que des villas pour les visiteurs qui veulent encore passer des vacances à la plage Purnama. Pour aller à la plage Purnama, les visiteurs peuvent prendre une voiture ou les transports en commun. Si vous utilisez le transport commun, vous pouvez vous arrêter à la gare routière Sukawati, puis continuer à utiliser un taxi moto ou d'un véhicule privé à la plage Purnama. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur. La tourbe est une sorte de terre des restes de plantes et d'animaux qui ne sont pas complètement décomposés et collectés en grande quantité. L'Indonésie a la quatrième plus grande superficie de terre de tourbe dans quatre dans le monde entier, dont un contenu est au district Nagara, en région Hulu, Sungai Selatan, Kalimantan Sud. Cette rubrique va discuter sur des marais de tourbe à Kalimantan Sud qui contribuent aux gens qui vivent dans cette région. Kalimantan Sud est une province en Indonésie qui se trouve à l'île Kalimantan, avec une superficie d'environ 3,9 millions d'hectares composée de terres, des forêts et des tourbières. Une zone de marais de tourbe est située dans le quartier Nagara, en région Hulu Sungai Selatan. Les résidents du district Nagara et la tribu Banjar, habitant les sous-districts Daha Nord, Daha Ouest et Daha Sud, ils vivent déjà sur le marais d'eau de génération en génération depuis les temps anciens. Leur travail est déterminé par les saisons sur le territoire de l'écosystème. Par conséquent, la communauté dans cette région gagne pain comme agriculteurs et pêcheurs. Comme exemple, lorsque la saison de pluie, connue localement comme la saison interne, l'eau des marais monte et la tourbière qui peut généralement être plantée des pastèques, des patates douces, soit gumbili, la citrouille, les haricots Nagara et le riz sont plongés dans de nombreuses régions. Pendant ce temps, les populations locales changent les professions temporairement comme pêcheurs pour attraper des poissons dans les marais de tourbe. Un pêcheur dans le quartier qui était autrefois, selon l'histoire Banjar et Kota Waringin, centre administratif du royaume Nagara Daha, peut produire un quart à un kilogramme de poissons une fois levé de l'équipement pour piéger les poissons de pêche, soit boubouillants, en bambou ou tempirai, soit filets qui sont faits de fil. Dans une journée, ces pêcheurs pourraient mettre environ 50 pièges à poissons ou tempirai. En cette saison, le prix du poisson dans leur prise, comme haruan, a atteint 22 000 rupiah par kilogramme. Pour le poisson seluang, par kilogramme pourrait atteindre 30 000 à 60 000 rupiah. Selon les habitants, la saison peut durer de l'octobre au janvier l'année suivante. Si le poisson frais est transformé en poisson salé, le prix sera différent. Le prix de ce haruan salé atteint 100 000 rupiahs par kilogramme, tandis que ce luang ou ce pat salé pourrait atteindre 80 000 rupiahs par kilogramme. Les poissons salés deviennent des souvenirs de plus recherchés de Nagara, en plus de la pastèque et l'ignam, qui sont aussi grandes. Quand il ne pleuvait plus et l'eau commence à se retirer, il indique que la saison interne prend fin. La surface de tourbière commence à être visible. À ce stade, les pêcheurs changent aux agriculteurs. Des groupes d'agriculteurs réagiront à semer les grains de melon d'eau, gumbili et des légumes secs. Dans un avenir très proche, environ 4 mois, habituellement la pastèque est récoltée et prête à vendre à Jakarta, même exportée à Singapour. De 1000 arbres sur un hectare de terrain, les agriculteurs sont en mesure de produire 10 à 20 tonnes de pastèque au plus bas prix de vente de 600 rupiahs par kilogramme, et le prix de vente le plus haut peut atteindre 5 000 rupiahs par kilogramme. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Ces auditeurs de Voix d'Indonésie ont rencontré dans le programme La couleur musicale indonésienne ce soir dans l'occasion de l'accueil de l'indépendance de l'Indonésie. On écoute les chansons en nuances de la nationalité. On écoute une première chanson intitulée Satu Indonesia, chantée par le groupe de musique Kotak.
We'll be right back.
chers auditeurs, c'était la première chanson intitulée Satu Indonesia ou en français indonésien est un, chantée par le groupe Kotak. La chanson Satu Indonesia a décrit la condition mondiale où les gens ne se soucient pas les uns des autres et un jugé par l'OL. La parole de la chanson invite également les jeunes en Indonésie à unir dans le pays l'amour et la culture. Une première chanson en nuance de la nationalité publiée par le groupe Kotak dans son quatrième album intitulé Never Dies. 10 ans avant la sortie de l'album Never Dies, ce groupe qui a le centre de rock a été formé à partir d'un concours de jeunes talents. Le nom de Kotak signifie « quatre côtés aux quatre coins » qui sont réunis dans une boîte. Le nom du groupe a également représenté la personnalité de chaque membre du groupe qui a la différence mais unir dans une musique. La première formation du groupe, entre autres, c'est la guitariste Ites, bassiste, pareil chanteur et Posan, batteur. En 2006, la position de chanteur remplacée par Tantri, une fille qui a la voix unique. En 2011, le batteur Posan a sorti du groupe en raison de focusser son projet musical. Bien qu'il ait seulement 3 personnels, mais ce groupe ne change pas le nom. Ses amis, avant nous raconter plus loin du groupe Kotak, où on écoute sa chanson suivante intitulée Tanah Airku, ou en français Ma Patrie.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, Connecting, Dignifying.
Radio République Indonesia, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
C'était la chanson « Ma patrie » chantée par Kotak, la chanson de ma patrie qui a décrit la beauté de l'Indonésie, était créée par Ibu Sud. Cette chanson a été arrangée par Kotak à la fin de l'année 2016 de son septième album intitulé « Long Life Kotak ». Autre que « Ma patrie », ce groupe également une chanson en nuance de la nationalité intitulée « Merah Putih » ou « Le rouge et le blanc ». Accompagnée par la nuance du rock, la chanson de Merah Putih a décrit comment le drapeau de l'État indonésien, la rouge et blanche, peuvent définir l'esprit l'unitaire parmi les jeunes indonésiens. Dans cette chanson, Kotak a souligné comment l'esprit nationalisme doit rester fort pour l'Indonésie. Si je dis avant nous terminons notre programme musical ce soir, on écoute une dernière chanson intitulée Merah Putih. Bonne écoute et au revoir.
Serahkan
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11 785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
takkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani yang masyhur
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. Ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta, 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.